Beaucoup de péripéties, nous sommes arrivés au chapitre 9, verset 18. Ça donne Perek Tet, Pasuk Yotret. Nous sommes dans l'après-déluge. Donc nous sommes dans l'après-déluge. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-déluge? Dieu a promis de ne plus déluger et il a donné son signe d'alliance avec nous. La fameuse arc-en-ciel dont on avait déjà parlé.
C'est comment je vais payer vous, bien sûr.
Voilà.
Cette semaine, j'ai reçu par internet un arc-en-ciel qui faisait tout le tour. Tout le tour. Mais je ne sais pas où ça a été pris. Okay.
Moi, je ne l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu des trucs sur Facebook. Oh là là, on n'a pas vu d'arc-en-ciel rond depuis la sortie d'Égypte en l'an. Ça veut dire que la Géoula est proche, ma chère va venir. Faites tes chouva.
Je t'ai dit ça quand j'ai vu l'arc-en-ciel.
C'est David qui a dû écrire
ça. Non.
C'était la photo d'un arc-en-ciel et c'était beau. C'est tout. Nekouda, c'était beau.
Oui, non, mais...
C'était beau.
En tout cas, Iné. Donc nous sommes dans l'après-déluge. ויהיו בני נוח היוצאים מן הטבע שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען. Tout de suite on nous présente Ham comme étant pas vraiment celui qui va avoir une influence, mais il est le père de Canaan. Semble-t-il que c'est parce que Canaan est son fils que Ham se comporte comme ça. C'est-à-dire que d'habitude ce sont les parents qui influent sur leurs enfants. Ici il semblerait que ce soit l'inverse. Que ce soit Kenaan qui influe sur Ham. Ok. Shlosha ele ben Noach ou meele nafza kol haaretz. Vayachel Noach isha adama vayita kar. Noach nous est présenté ici comme étant un agriculteur. Isha adama, l'homme de la terre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. On avait vu à la naissance de Noach qu'il avait été appelé Noach parce que Zeyenachamenu mimaasenu mitzevon yadenu. C'est lui qui va enlever notre douleur, notre tristesse à cause du travail difficile, laborieux de la terre. Nos sages nous diront que c'est lui qui a inventé la charrue pour permettre de travailler la terre sans avoir trop de mal. Et on avait dit, Noach naît le jour où Adam meurt, donc la fin de la malédiction de Adam. Alors, la terre a été maudite à cause de lui. Donc maintenant qu'il n'est plus là, alors on peut recommencer quelque chose. Donc Noach et Ish à Adama. Et qu'est-ce qu'il fait après le déluge? Vaïta Karem. Il a planté une vigne. D'où est-ce qu'il avait cette vigne?
Il avait du vin par l'oiseau.
Hein, il avait la portée avec lui dans la Teva.
C'est pas le corbeau.
Non, c'est pas le corbeau. Lui, il a amené une feuille, un rameau d'olivier. Pas le corbeau, mais la colombe. La colombe. Donc là, Vaïta Karem. Vayesht minayayin. Pourquoi il a fait ça?
Pour s'enivrer.
Pourquoi faire?
Pour oublier.
Ben oui, pour oublier. On avait déjà parlé. Top, mais c'est d'accord. Non, mais je ne me rappelais plus exactement dans quelle version c'était arrivé. Oh, très bien, très bien. Et donc, on avait dit aussi que Shem et Yefet, on avait expliqué ce que ça veut dire Yefet. Ça ne veut pas dire beau.
Non,
on n'avait pas dit. Non, bon, très bien. Alors, on y va. Effectivement, il boit pour oublier. On est après le déluge.
Le stress.
Ben, tu imagines, c'est terrible de devoir passer à la reconstruction. C'est-à-dire que tu laisses tout un monde derrière toi. Ceux qui vont naître maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Mais toi, tu le sais. Vayesh minayayin vayishkar vayitgal betoch haolo. Vayar Ham avi Kenaan. Iné, Ham est représenté comme étant le père de Kenaan. Et ervat aviv. Vayaged lishne echav bachutz. Pourquoi est-ce que il a été dormir nu?
Pourquoi pas
le pyjama.
Je sais pas si à l'époque il avait chaud.
Alors, la vérité, c'est que c'est toi qui as raison. Quand tu regardes dans le Talmud, tu vois que les gens, c'était l'habitude, quand il fait en été, d'aller dormir nu. C'est-à-dire, c'est pas du tout étonnant de trouver des gens qui dormaient nus à l'époque. À tel point que la Gemara, elle va se poser la question, mais si elle est Nida, est-ce que tu as le droit de dormir nu avec elle, machin? Donc de là, tu apprends, les gens, ils dormaient nus, ils ne connaissaient pas le pyjama. Quoique, il y a quand même quelque chose qui s'appelle Ksout Laila. Ksout Laila, c'est quoi? C'est une chemise, une grande chemise de nuit, comme ça. Là, soit il avait chaud, soit il veut revenir à l'état originel. Alors il est censé recommencer le projet qui avait commencé avec Adam. Au début, Adam, il était nu. Donc il veut revenir à l'état originel. De la même façon, il va boire de cette même vigne, nous dirons Chazal, que Adam avait utilisé de Etzadat, d'après l'avis qu'il s'agit d'une vigne.
On sait à quelle époque, à quel moment de l'année c'est, en été, en hiver, machin.
Ah bah, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'il est sorti de la Teva.
Oui.
Oui, en Cheshvan.
D'accord.
Ouais. Mais peut-être qu'il a attendu après pour planter la vigne et en récupérer les fruits. Bah, donc, a priori, la récolte du raisin, c'est en juin, juillet. Donc, effectivement.
Non, septembre.
Ça commence pas en septembre.
Ah,
elle commence en septembre.
En France.
Non, elle finit en septembre.
En France.
En France, parce que je sais pas, mais en Israël, ça commence pas en septembre.
Bon, Israël, je sais pas.
Août. On s'accorde sur août.
Oui, je dirais août.
Allez, banco pour août.
C'est bien.
Dans tous les cas, il fait pas froid.
Non.
Je sais. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas seulement une question de chaleur. C'est une question de vouloir continuer ou du moins faire un reboot de ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Et donc. Vayacham avi Kenan et ervat aviv. Vayaged lishne echav bachutz. Le fait qu'il l'a vu, c'est une chose. Mais pourquoi il a été le dire aux autres? C'est-à-dire, il a été poussé par Kenan. Kenan, on va le connaître bien beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'avenir. Et on sait que les peuples cananéens sont d'une dépravation totale au niveau de la erva. Et donc, semble-t-il qu'encore une fois, comme on a dit, il est influencé par son fils. ויקח שם ויפת את סמלה, את הסמלה שלך וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. On connaît, voilà, ils ont pris la couverture, ils ont été en arrière pour ne pas le voir et ils l'ont recouvert. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces détails? Alors bien sûr qu'il y a une dimension de kavod, de kibud avaim, beseder gamour. Mais qu'est-ce que ça représente également? On est mechassé à la erva. Mazé Erva. Erva, c'est l'endroit qui est d'un côté ce qui nous permet de donner la vie, mais c'est d'un autre côté, depuis Adam Arishon, ce qui nous fait honte. Et donc, le qui souille à Erva, c'est pour dire que la vitalité, c'est quelque chose de personnel, de très profond. Et donc, ce n'est pas quelque chose dont on fait commerce, ce n'est pas quelque chose dont on va commencer à dire à tout le monde. Donc, oui, pour la Erva, mais pas pour l'avoir. Et donc, Emrissou. Mais qui a pris les initiatives? Shem. Shem prend l'initiative. Et donc, à ce moment-là, Vaikats Noach Miyeino, Vaïda et Asher Asalo Beno Akatan. Donc, il est au courant de ce qu'a fait Ham. Vaïomer Arou Kenan. Ben, pourquoi Arou Kenan et pas Arou Ham? Parce qu'encore une fois, celui qui est le cerveau derrière Ham, c'est Knan, son fils. OK. Donc Arur Kenan Eved yeh Eved Avadim yeh le'echav. Il sera le serviteur de ses frères. Donc de qui? De Yefet et de Shem. Est-ce que ça s'est réalisé? Oui. Lorsque Yehoshua a conquis la terre d'Israël, les Cananéens sont devenus les esclaves des enfants de Shem, nous. Et lorsque les Romains ont réussi à détruire l'empire de Carthage, et à prendre tous les rescapés en esclavage, eh bien, ils sont devenus cananéens. Les Carthaginois, c'était des cananéens. Ils sont devenus les esclaves de Yefet, Rome.
C'est
pas Grèce, plutôt. Quoi? C'est pas que la Grèce. En l'occurrence, Rome aussi est un descendant d'eux. OK? Donc, ça s'est réalisé. Yefet avait une... Est-ce que c'est une punition? Ou est-ce que c'est un tikkun? Dans le judaïsme, vous remarquerez qu'il n'y a pas de prison. Ça n'existe pas la prison. Quelqu'un qui a fait un délit et qui n'a pas de quoi rembourser, qu'est-ce qu'il fait?
Il se met en esclavage.
C'est-à-dire qu'il va bosser, faire des travaux d'intérêt généraux. Il va apprendre aussi, c'est-à-dire qu'il va rembourser sa dette, et en plus il va apprendre comment on se comporte chez des gens bien. Donc voilà ce qui se passe avec Ram, avec Nan. On lui dit, va apprendre chez des gens meilleurs que toi. C'est-à-dire Eved Avadim Yelech. ויאמר ברוך השם אלוהי שם. C'est pas mal, c'est la première fois qu'on dit ברוך השם. Le premier qui dit Baruch Hashem, c'est Noach. Baruch Hashem, Elohim, Veiknan, Eved Lam. Ça, c'est pour Shem. C'est lui qui est l'initiative, Baruch Hashem. Aval Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Beoal Shem, Veiknan, Eved Lam. Mais c'est Yaft Elohim le Yefet. Agrandi, exactement. On a dit Yefet, ça ne veut pas dire la beauté, ça veut dire l'expansion. La beauté, bien sûr que ça ressemble. Yafet, Yefet. Parce que la beauté est la première chose qui va conquérir au loin. C'est la première chose qu'on va voir de loin. Donc, Yefet, son truc, c'est l'expansion, mais il doit être tout le temps dans les tentes de Shem. C'est-à-dire que quand son expansion va-t-elle être une bénédiction pour le monde? Lorsqu'il sera connecté à la tente de Shem. Donc, c'est quand que la société occidentale peut être une bénédiction pour l'humanité, lorsqu'elle a dans sa bibliothèque et qu'elle s'y réfère à la Torah.
Est-ce que ça ne veut pas vouloir dire aussi que, quand même, il y a la notion de beauté de Yafet?
Bien sûr.
Il faut qu'il soit.
C'est la même chose, en fait. La beauté de Yafet qui doit être au service de la valeur et de la morale de Shem, c'est bien sûr. Bien sûr. Bah, tout seul, le problème, c'est qu'après, il n'y a plus d'objectif. Vous rappelez que Shem, ça veut dire l'objectif. Donc, s'il n'y a plus ça.
Il faut que ce soit dans une communauté.
Mais un ordre social qui aurait des valeurs bonnes. Parce que si l'ordre social n'a comme valeur, comme simple valeur, que l'esthétique, ça crée une société terrible. Société terrible. Ok. Besséder. ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה. היא הלכו? 350. ויקול ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה וימות. זה יהיה. 950. היא פס לר מגוש. מונש לפיסן לי פר לרסין. כוח?
כה? שפסים
מונש כקשור. אה, זה סע. מנה, עונה ודיק יהיה פרולם פרסקו. On a dit que le déluge a commencé quand il avait 600 ans, qu'il a vécu après le déluge 350, mais que le déluge a duré un an. Donc il aurait dû vivre en tout 951 ans. On avait expliqué que le temps ne passe pas de la même façon à l'intérieur de l'arche et à l'extérieur de l'arche.
Ça, j'arrive pas à comprendre.
Pourquoi t'arrives pas à comprendre ?
J'arrive pas à comprendre.
Un miracle, ça te dérange pas ?
Non, que tu dises que le temps n'était pas le même, j'ai du mal.
Mais t'as du mal, quoi, physiquement parlant ?
Oui.
Alors, le fait que Dieu il fasse arriver tous les animaux deux par deux, machin, ça, c'est pas de problème.
Non.
Ah bon ?
Non.
Parce que c'est visuel.
Ok.
Imaginez, alors que ça, on peut pas.
Tu vois, elle m'explique la raison.
C'est bien.
Les astronautes et tout ça, ils ont aussi. Ils ne comptent pas le temps comme s'ils étaient sur la Terre.
Oui.
Quand ils tournent, c'est la même.
Non,
leur corps vit plus.
Ouais, mais enfin, attendez.
Il y a un truc.
Non, ça arrive. En fait,
le corps d'un astronaute vit plus.
Oui, mais c'est pas.
Il vit davantage.
En fait, le temps nous a appris, Albert.
Oui.
Bébert,
bien sûr. Comme on l'appelle, Bébert une pierre.
Ron Einstein.
Oui. Donc Bébert une pierre nous a appris que le temps, en fait, dépend de la masse, dépend de la vitesse. Et que donc, ça veut dire qu'un astronaute qui est en position géostationnaire autour de la Terre, ça ne se ressent pas. Peut-être que c'est vrai au niveau mathématique, que son corps il va un tout petit peu bever, mais ça ne se ressent pas. Mais effectivement, la question est posée, si on voyageait maintenant à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, l'un des paradoxes, c'est de dire, est-ce qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière? Mais disons qu'on va se rapprocher de la vitesse de la lumière. Alors, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Où tu as deux jumeaux, un qui reste sur Terre et l'autre qui voyage à la vitesse de la lumière pendant un an. Et en fait, on va voir ce qui va se passer et que les deux ne vont pas du tout avoir, leurs cellules ne vont pas vieillir de la même façon entre l'un et l'autre. Donc, ça, c'est au niveau de la physique, de la théorie de la relativité générale. Maintenant, une fois qu'Einstein nous a expliqué ça, et c'est très facile de comprendre le verset.
Absolument.
Peut-être que dans l'arche se passait un autre plan d'existence, comme quand tu voyages à des vitesses folles. Ok ?
Mais qu'est-ce que ça vient expliquer au niveau philosophique.
Ah, ça vient expliquer que 40 jours, 40 nuits, c'est le temps où on reçoit la Torah, ce qu'on avait dit la dernière fois. Et c'est ce, que, noir, qu'il a, c'est ce qui lui arrive dans la Teva. Alors que dehors, se passe un cycle naturel. Un cycle naturel, c'est un an. D'accord ? Ok. Ve'elet toledot bene noach shem ham vayefet ve'yivaledu lahem banim achar amaboul. Achar amaboul, ça veut dire juste après le déluge. Il y a une différence entre achar et acharé. Lorsqu'il y a marqué dans la Torah achar quelque chose, c'est juste après. Lorsqu'il y a marqué acharé quelque chose, c'est que ça s'est passé longtemps après. Donc là, on commence à repeupler la planète juste après le déluge. Et c'est qui les enfants alors ? Bene Yefet, Gomer, ou Magog, ou Madai, ou Yavan, ou Tuval, ou Mesher, ou Tiras. Il y a des noms qui nous sonnent connus. Bon, Tiras, non, c'est vrai que Yavan. Le maïs, ça se bat, mais Yavan. Tu faisais référence tout à l'heure à la Grèce, effectivement.
Magog.
Alors, Magog. On va connaître ça dans la prophétie de Yéhézkel, dans le chapitre 38, de Gog ou Magog, effectivement. Ce serait vers la Perse. Au niveau géographique. Enfin, je ne dis pas que la Perse, c'est forcément... Non, c'est une des possibilités que la Perse prenne le rôle de Milchemet Gog ou Magog. C'est possible. Ce n'est pas une nécessité.
C'est quoi Milchemet Gog ou Magog?
Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai deux cours entiers, trois cours entiers sur Gog ou Magog. Qui s'appelle Gog ou Magog 1, Gog ou Magog 2 et Gog ou Magog 3.
C'est mieux grand mot.
T'as vu ou pas?
C'est sur quoi?
Sur ma chaîne YouTube.
Oh, d'accord.
Donc tu marques Graphison, Gog ou Magog et tu vas avoir les trois. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, où venez Gomer, Ashkenaz, Verifat, Vetogarma? Ah bah tiens, voilà d'où ils viennent. Ashkenaz, c'est quoi Ashkenaz?
L'Allemagne.
Oui. Alors ça ne s'appelait pas l'Allemagne à l'époque, évidemment. Mais les peuples d'Europe centrale, ça va être Ashkenaz. Bene Yavan, Elisha, Vetarchish, Kitim, Vedodanim, mais Ellen, Nifredu, Iye, Agoyim, Barsotam, Ishlil, Shono, le Mishpechotam, Begoyehem. Très bien. Ça, c'est pour Yafet. Ou Bene Cham, Kush ou Mitzraim ou Put ou Knaan. Donc là aussi, on a des noms qui nous sonnent très connus. Kush, Mitzraim, l'Égypte, évidemment. Knaan, on connaît très bien. Ou Bene Kush, Seva, Vechavila, Vesavta, Verahama, Vesavtecha, ou Bene Rahama, Seva, ou Dedan. Vechush, Yalad, et Nimrod. Ah. Et où Echel, Giliot, Gibor, Baaret. Nimrod. Nimrod, son nom est tout indiqué. On va voir ce qu'il va faire. Mais Nimrod, il est présenté comme quelqu'un de Gibor.
Ça veut dire quoi, Nimrod ?
Nimrod, nous allons nous révolter.
C'est lui qui a fait la tour.
C'est lui qui plus tard fera la tour de Babel, effectivement. Donc, Verhouch est là, Nimrod. Mais regardez comment on nous le présente. Où aya Gibor Tsaïd ? Livna Hachem.
Gibor, c'est pas comme Tzadik.
C'est vrai que Gibor, c'est pas Tzadik, mais Ezeu Gibor.
Ça veut dire
physique,
physique, physique.
Oui, mais la Mishnah nous dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Donc c'est, il est aussi physique parce qu'on nous dit qu'il est Gibor Tzaïd, Lifne Hashem.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'il y a, oui, un potentiel énorme pour cet homme-là. Et d'ailleurs, regarde ce qu'il va faire. Vatei Reshit Mamlachto Bavel. Erer Ve'akad Ve'kalne Ve'eretz Shina. Nimrod est le fondateur de l'État. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de pays. Il y avait des communautés humaines qui vivaient ensemble, mais il n'y avait jamais eu de pays. Il n'y a pas de frontières. Et là, Nimrod crée la Mamlacha, le royaume. Il est le premier roi de l'histoire. C'est pas mal. Et c'est où son royaume ? Babylone. Alors, ça tombe pas mal, parce que quand on regarde un petit peu dans les vestiges archéologiques, machin, ben, on parle de la Mésopotamie, de Sumer, comme étant les premières cités-états de l'histoire, telle qu'on les, enfin, pour l'instant, de ce qu'on a retrouvé. Merci. Maintenant, c'est quand ? Est-ce qu'on pourrait dater Nimrod ? Plus ou moins, plus minus. C'est le petit-fils de Cham. Ouais ? C'est l'arrière-petit-fils, donc, de Noah. Donc, combien de temps sépare Nimrod et Noar ? Allez, une centaine d'années. Centaine d'années. Donc, c'était quand le déluge, rappelez-moi ? C'était en quelle année ? On se rappelle ?
Non.
Mais si, on se rappelle. C'était en 1656.
Avant ?
Non. Depuis. C'est-à-dire pas avant notre ère. En 1656, depuis Adam Arichon. Ce qui veut dire...
400 ans, non ?
Quoi ?
300 plus 100. C'est 400 ans qu'il est...
Je vois, oui.
Et 400 ans de différence entre Nimrod et le déluge.
Ah oui, oui, effectivement. Entre le Nimrod, entre le déluge et Nimrod, il y a à peu près 400 ans d'écart. Quoique, je ne suis pas certain d'accord avec toi. Parce qu'à aucun moment, on nous a dit qu'il fallait attendre que Noah meure pour commencer à avoir des petits-enfants. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y a une centaine d'années entre la fin du déluge et la naissance de Nimrod. Mais pour me donner un ordre d'idée, Nimrod, c'est un contemporain d'Abraham. Il est plus âgé qu'Abraham, mais c'est un contemporain d'Abraham. Donc ça veut dire que Nimrod, c'est plus ou moins aux années 1900 de l'ère juive. Nous sommes en 5782. Donc ça veut dire que Nimrod, c'est il y a à peu près 3700 ans, 3800 ans. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est pas si longtemps. Et effectivement, les premières cités, les premières cités-états, ça a 4000 ans à peu près. Donc on est pas mal. OK ?
Question. Oui. Pourquoi est-ce que Noé vit autant de temps et après on repasse sur des...
Ah, ça on avait évoqué cela avant. On avait évoqué cela il y a moult lorsqu'on avait vu les gens comme Metushelah. On a dit parce que semble-t-il, ils puisent leur vitalité pas seulement de la nourriture qu'ils mangent. Et d'ailleurs, on a dit c'est certainement pas tout le monde qui vivait 900 ans. Certaines personnes dans chaque génération qui puisaient leur vitalité directement de Dieu. C'est ça ? Ok. Donc, on a créé donc à Babylone le premier royaume de l'histoire. Mina Aretzai Yatsa Ashur. Ah bah tiens. Il y a un homme qui était à Babylone, mais qui en est parti. Le Midrash nous dit, oui, quand ils ont commencé la tour de Babel, lui, il a décidé de ne pas souscrire à cette politique communiste. Parce que, on va voir, la tour de Babel, c'est le communisme à l'état pur. Et donc, lui, il a décidé, c'est qui cet homme-là ? C'est Ashur. Ah, tzadik Ashur. Ouais, bien sûr, tzadik. Pourquoi il est parti ? Minaret sa'i yatsa Ashur, va yven et Ninve, va et Rehovot, ir, va et Kalach. Pourquoi il est parti à Ashur ? Pour faire quoi ? Pour faire Babel 2. En fait, il était juste pas content que ce soit pas lui le chef. Donc il est parti pour faire la même chose que Nimrod ailleurs. Il voulait être calife à la place du calife.
C'était son nom, Ashur, ou c'était le nom de la ville ?
C'était son nom, et donc il a donné son nom au nom de la ville. Oui, bien sûr, c'est le nom d'un empire.
Oui.
L'empire de la Assyrie, Mamlechet Ashur, ça va devenir un des plus grands empires de l'époque. Il va être plus puissant que Babylone. Enfin, avant que Babylone devienne véritablement puissant, c'est Ashur qui va contrôler le monde.
Il sera plus grand que
Sumer. Oui. OK ? Donc, on voit que Ashur.
Il s'appelle Ashur.
Il s'appelle Ashur. D'accord ? L'écriture Ashurite.
Oui.
Non, aucun. L'hébreu s'appelle dans le Talmud Ashurite parce qu'elle est droite.
Parce qu'elle est ?
Droite. C'est, quand on parle de Ktav Ashuri, c'est l'hébreu que nous on connaît aujourd'hui, qu'on apprend à l'Ulpan, pas l'hébreu cursive qu'on écrit. C'est l'hébreu qu'on trouve dans les livres parce que ce sont des lignes droites. Yachar, Yachar. Ashur, Yachar. Ok, donc c'est des écritures comme ça, de droite. À l'inverse de ce qu'on appelait le Ktav Ivri Kadum, qui était beaucoup moins droit que celui-là. D'accord ? Donc, Vayven, dit, ok. Umitzraim yalad et ludim, vet naami, ad namim, vet laavim, vet naftuchim, vet patrusim, vet kasluchim, asher yatsu misham pelishtim, vet kaftorim. Vous comprenez que tous ces engendrements dont on nous fait part, à chaque fois, c'est pour arriver à la personnalité qui nous intéresse. Quand on a parlé de Knan, maintenant on a parlé de Nimrod. C'est pas couche en soi qu'il est important. C'est parce que Cush, il va être le père de Nimrod. Là, on nous parle de Mitzrayim, c'est très important. Mais après tous les autres, pourquoi est-ce qu'on nous en parle? Parce qu'à un moment donné, ça va amener à Plishtim. Ok? Et tous ces noms-là résonnent pour le juif qui lit la Torah. Et là, je vais vous demander d'utiliser vos doigts et de compter. Combien sont les enfants de Kenan? Alors, je reprends. וכנען ילד את צידון בכורו ואת חת ואת יבוסי, יבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערקי ואת הסיני ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפוצו משפחות הכנעני. Alors, combien il y a d'enfants? 11. Mais combien y a-t-il? Combien y a-t-il de peuple cananéen? 12. Puisqu'il y en a un, il s'appelle Knan. C'est-à-dire que c'est tous des cananéens, mais il y a un des 12, c'est Knan, lui-même. D'accord? Donc ça veut dire quoi? 12? Ça ressemble à quelque chose que je connais. Hein? C'est intéressant. Ok, on verra. On verra plus tard. Vaïkvou la Kanaani mitsidon boacha gerara ad azza. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant quelles sont les frontières du cananéen? Vous avez compris que c'est pour savoir qu'est-ce que nous on va prendre. N'oubliez pas que ça, ça raconte l'histoire de Noir, mais c'est donné à qui par qui? C'est donné à Obné Israël par Moshe quand on sort d'Égypte. Donc on prépare la conquête d'Israël. Donc voilà, voilà les frontières des Canaanim. אלה בניכם למשפחותם ללשנותם בארצותם בגויים. Voici les enfants de Ham selon leur famille, selon leur langage, selon leur terre et selon leur nation. Parce que ça y est, on parle de nation. Oula Shem, Yulad Gamhu. Bah oui, lui aussi Shem, il est roi d'avoir des gosses. Yulad Gamhu, avi kol bene ever achi yefet agadol. Quand on avait dit que Ham, on dit qu'il est le père de Canaan, ça voulait dire que c'est Canaan qui donne le ton. Donc là, on va faire pareil pour Shem. Il est le père de tous les enfants de Ever. Donc qui est le véritable patron de la famille? Ever. Et la famille sera donc appelée au nom de Ever. Comment est-ce qu'on pourrait appeler la famille?
Ivrim.
Des Ivrim. Ivrim. Ever. Ivrim. En hébreu, en français, comment on appellerait ça?
Hébreux.
Ah tiens, des Hébreux. Voilà d'où nous sommes Hébreux. Maintenant, Ever, c'est qui par rapport à Shem? Regardez, c'est pas son fils. Ubne Shem, Eilam, ve Ashur, ve Arparshad, ve Lud, ve Aram. C'est pas le même Ashur, hein, évidemment. Ok. À votre avis, ça va être qui le patron de la famille? Qui va être l'homme qui va poursuivre la famille? Elam, Ashur, Arparshad, Oloud. Hein, lequel vous préférez? Bon, c'était une bonne idée, mais non. Ça sera Arparshad. Eh oui. D'ailleurs, moi je me dis toujours, pourquoi est-ce qu'on parle d'antisémitisme? On pourrait parler d'anti-arparshaditisme. Bon, c'est peut-être un peu trop dur à dire. C'est pour ça que les gens, ils sont pas dit, ça doit être ça. Alors Arparshad, lui, il va avoir un fils. והרפרשד ילד את שלח. ושלח ילד את עבר. Donc, c'est-à-dire que עבר, c'est l'arrière-petit-fils de Shem. Mais c'est lui qui donne le ton à la famille. Et nous disent nos sages, עבר était prophète. Comment on le sait? ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. Donc, Ever, il a deux fils. L'un, il l'appelle Peleg. Pourquoi? Parce que dans la génération de son fils, il y aura la tour de Babel. Niflega aret, dora palaga, l'éparpillement. Mais comment il peut savoir que dans la vie de son fils qui vient de naître, il y aura la tour de Babel? De là, nos sages nous disent, Ever était donc prophète. Et donc, en fait, c'est lui qui va transmettre la réalité prophétique jusqu'à Avraham. D'accord? Donc, Ever, il a deux fils, un qui s'appelle Peleg et l'autre qui s'appelle Yoktan. Veoktan yalad et. Combien d'enfants il a? On va voir. Almodad, vet chalef, vet chatzarmavet, vet yarach, vet adoram, vet uzal, vet dikla, vet oval, vet avimael, vet sheva, vet ofir, vet chavila, vet yovav. Hein? 13. Kol ele ben yoktan. Alors, la vérité, vous avez raison, c'est 13, mais en fait, c'est 12 plus 1. Non, mais pourquoi? Parce que dikla, c'est une fille. Ah, ouais, les autres, c'est tous des mecs. Nachon. Sauf que là, ça ressemble encore plus à quelque chose que je connais. Eh oui, 12 tribus et Dina. Mais attendez. Ben oui, mais je me rends compte que chez les enfants de Cham, il y a eu Knan qui a eu 12 enfants, mais c'est pas lui qui fait passer l'histoire des enfants de Cham. C'est Mitzrayim. Je me rends compte que chez les Hébreux, il y en a un qui a 12 enfants plus une fille, enfin 12 garçons et une fille, et l'autre, il a un fils. Et par qui ça passe? Par celui qui a un fils. À chaque fois qu'on va voir une famille où il y a d'un côté un qui a 12 plus 1 et de l'autre un descendant, ça passe par le un descendant.
Ils avaient tous la même femme.
Ou pas. L'ODR. Non, peut-être qu'il y avait plusieurs femmes, c'est pas le problème. Mais non, on n'en parle pas ici. Mais ce que je veux te dire, c'est que à chaque fois qu'on voit deux frères qui doivent continuer la famille, et il y en a un des deux qui a 12 enfants et l'autre un, ça passe par celui qui en a un. Parce que les 12, c'est les mois de la lune. Et le 13e, justement, pour le 13e mois qui va, des fois, ramener la course de la lune par rapport au soleil. Qui est dominant, le soleil ou la lune? Le soleil. Et d'ailleurs, on va le retrouver entre Abraham, par exemple, et son frère Nahor. Son frère Nahor, lui aussi, il a 12 enfants. Et Abraham, il en a un. Et ça passe par Abraham. D'où la question, comment ça se fait que lorsque Yaakov arrive avec ses 12 enfants plus une fille, et Esav, non, ça passera par lui et pas par Esav. Il faudra voir ça dès qu'on arrivera à Yaakov et Esav. En tout cas, Vayi Moshava Mesha Boacha Sephara Har Kedem Elle Beneshem Mishpechotam Mishonotam Barsotam Legoyehem. Donc le même verset qu'on a vu avec Ram revient chez Shem. Voici les enfants de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre et selon leur nation. Elle mishpechot ben Noach le toldotam ve goyehem u me'ele nifredu agoyim ba'aretz achar amaboul. Donc, nous venons de terminer le chapitre 10 en disant, voilà toutes les familles et toutes les générations juste après le déluge. Et on me présente ces familles comme ayant plusieurs langages. Ron ? Donc comment est-ce qu'on va comprendre le verset qui suit ? Comme la Ganénette nous l'a expliqué ? Hein ? La Ganénette nous avait dit que l'histoire de la tour de Babel, au début, ils avaient tous la même langue.
D'accord ? Mais il y a un chou qui s'est tiré.
Mais là, il n'empêche que ce n'est pas la question. On nous a quand même dit, la Ganénette nous a dit, qu'au début, ils avaient tous la même langue. Et que Dieu, il a mélangé les langues, et c'est pour ça qu'ils ne se comprenaient plus. Sauf qu'on vient de lire que ce n'est pas vrai, que la Ganénette nous a menti. Ou sciemment ou inconsciemment, mais elle nous a menti. Puisqu'on vient de lire, ils avaient déjà plusieurs leshonot. Et les enfants de Cham aussi, et les enfants de Yéphet aussi. C'est écrit noir sur blanc. Donc c'est en sachant cela que nous pouvons arriver à l'histoire de la tour de Babel. Vayi kol haaretz safa echad udvarim achadim. Alors ils avaient tous...
Alors,
quoi? Comment ils traduisent, toi?
Une seule langue.
Traduit toute la terre avait une même langue.
Et, ben voilà.
Et des paroles semblables.
Ben voilà. Ben voilà.
Mais c'est pas vrai.
Ben non, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est mal traduit. Moi, j'étais à l'Ulpan. Qu'est-ce que veut dire le mot Lachon?
Langue.
Langue. D'ailleurs, quand tu vas chez le boucher et que tu lui dis un irotse Lachon, ouais, qu'est-ce qu'il te donne?
Langue.
La langue. Langue. Ça veut dire quoi en hébreu, safa?
Langue.
Bah non, pas langue.
Un idiome.
Ah, c'est pas mal.
Ça veut dire un langage.
Mais non.
Non,
non, ça veut pas dire ça.
Safa.
Chaha.
Non, c'est pas.
Sfataim, parce que tu en as deux.
Donc pourquoi on dit pas Sfataim?
Parce que ça sonne pas bien. On a rajouté on a transformé le hé en tav, mais ça c'est normal. Sfataim, Safa, c'est la lèvre. La forme, Shafa, c'est pas pareil. Donc effectivement, ils ont déjà plein de léchonotes. Aval vayi kol haaretz Safa. Quelle est la différence? La shon, c'est pnimi, c'est à l'intérieur, au niveau du corps aussi. La lèvre, c'est à l'extérieur. Donc, la shon, c'est la langue, c'est le dialecte. C'est intérieur, c'est propre à chaque culture. Aval Safa, c'est la culture.
Ah oui, c'est comme l'hébreu et le yiddish.
Non. Non, je dirais que il y a le yiddish land, si tu veux aller dans la comparaison du yiddish. Là, il y a le
yiddish land ou autre chose.
Non, mais prenons le yiddish, deux secondes. Prenons le yiddish. Il y a la culture yiddish, l'humour yiddish, le théâtre yiddish, ce que tu veux. Attends. C'est une culture particulière. Il y a des insultes en yiddish, des blagues en yiddish que mes amis marocains ne comprendront jamais.
Jamais.
Hein, jamais.
Jamais. Ah, est-ce que je rate vraiment quelque
chose? Ah oui.
Tu peux pas imaginer ce que tu rates.
Évidemment. Je te souhaite d'être comme un calendrier, qu'on t'accroche au mur et que tous les jours on t'enlève un morceau. Ça, c'est de la.
Comme un poireau.
Oui. Ça sonne vachement mieux en yiddish. Mais en tout cas. Donc il y a cette culture, mais on ne parle pas le même yiddish quand on habite en Galicie que quand on habite à Vilna. On ne parle pas le même yiddish quand on est... Alors, évidemment, c'est le même tronc, mais l'accent change, les formules changent. C'est-à-dire que dans une même culture, et on a tous la même, on va avoir des dialectes un petit peu différents. Eh bien, c'est de cela qu'on parle. C'est-à-dire que « kol haaretz safa echad ». Ils ont tous la même culture, le même objectif. Mais ils ont chacun des langages différents en fonction de leur identité. Ok, c'est de cela dont on est en train de parler. Donc on nous dit ici, Vaïkol Aret Safa Echad, nous dit Rashi, c'était quoi cette Safa Echad? Leshon HaKodesh. Ça veut dire quoi Leshon HaKodesh? Ils parlaient tous hébreu? Non. Et là, que veut dire le mot Leshon HaKodesh? Enfin, les mots. Ça ne veut pas dire la langue sainte. Parce que
la langue pour étudier, la langue pour...
Traduction littérale, littérale. Leshon HaKodesh, oui. Ça ne veut pas dire la langue sainte. C'est une erreur de traduction qu'on fait souvent, comme d'ailleurs on dit Eretz HaKodesh. On traduit ça malheureusement par la terre sainte. C'est faux. Parce que pour dire la langue sainte, on dirait Leshon HaKedosha. Oui. Ou alors Eretz HaKedosha. Eretz HaKodesh ou Lashon HaKodesh, ça veut dire la langue du saint.
Ah, ben c'est plus logique.
Ben oui, d'abord c'est plus logique, mais ça veut surtout pas dire la même chose. C'est-à-dire que la langue qui permet de dévoiler le saint, la terre sur laquelle on peut dévoiler le saint. Donc, évidemment que l'hébreu, c'est plus facile. L'hébreu est propre et propice pour être Lashon HaKodesh, puisque le saint s'est dévoilé en hébreu. Mais toute autre langue peut être Lashon HaKodesh. Ça sera plus dur. Mais tu peux faire un cours de Torah en français. Ça ne veut pas dire que la langue de Molière, c'est tout le temps Lashon HaKodesh. Bien sûr que non. Il y avait un film à l'époque, une époque où les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y avait un film qui s'appelait Matrix 2.
Maintenant,
c'est Matrix 2. Je sais, non, le 4 maintenant. Il revient, c'est le 4. Il y avait une scène où il y avait, dans le film, il y avait un homme qui se faisait appeler le Mérovingien, et joué par Lambert Wilson, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Et sa scène d'introduction, c'était qu'il parlait en français, même dans la version en VO. Et il disait « J'adore les jurons français ». En français, il y a une quantité incroyable d'insultes. Bon, c'est pas toujours facile de dévoiler le Kodesh avec le français. Mais tu peux. Ça peut devenir la Shana Kodesh. Donc quand on te dit que toute la terre avait Safa Achat, ils avaient un objectif, c'était de faire le lien avec Dieu. On va voir si c'est pour le bien ou pas pour le bien, mais c'était ça l'objectif. Après, chacun, il l'avait dans sa langue. Ok ? Il y avait une culture mondiale, mais qui était parlée différemment. OK? Donc va y qu'on arrête sa fa echad ou dvarim achadim. Mazé dvarim achadim. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous dit Rashi. Qu'est-ce que c'est quoi le projet? Rashi nous dit dvarim achadim. Il y a plusieurs infos. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah oui, il a commencé de l'autre. Dvarim achadim. Baou beitza achad v'amru. Lo kol eimenu sheyavor lo et ha'elyonim na'ale l'arakia v'na'ase imo milchama. Donc, premier projet, on va monter dans les cieux et on va faire la guerre à Dieu. Deuxième projet, davar acher, al yichudo shel olam. C'est-à-dire, sur Bichlal, la place qu'occupe Dieu. Davar acher, amru, achat le elef v'shesh meot v'chamishim v'shesh shanim, arakia mitmotet. Bou na'ase lo samochot. Une fois tous les 1656 ans, le ciel nous tombe sur la tête. Faisons-lui des piliers. Ah mais là, il va falloir qu'on comprenne parce que ce n'est pas des idiots. Le déluge a eu lieu en 1656. Ils se disent, ces gens-là, tous les 1656 ans, il y a la possibilité du déluge. Mais c'est quoi le déluge? C'est quand Dieu, il descend. Venez, on va faire des piliers pour soutenir le monde. C'est pas mal.
Et c'est représenté par quoi ces piliers?
Ça va être la tour de Babel qui arrive là maintenant.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'ils étaient très vaillants, les Babyloniens. Ils n'avaient peur de rien, à part d'une seule chose.
Que le ciel,
ne leur tombe sur la tête.
Tiens.
Hein? Et ce qui leur est arrivé à la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à la fin de l'histoire de la tour de Babel? Dieu les a chassés de là où ils étaient. Comment on appelle ça en hébreu, chassés de là où ils étaient? L'exil. En hébreu, on dit galout. Hein? Azemayou. Ce sont nos pères, quelque part. Donc c'est avotenu, agolim, ou agalim. Nos ancêtres, les. Gaulois. Tu vois.
Donc on peut quand même dire que nos ancêtres c'était les Gaulois.
T'as vu?
Ça a fait plaisir à Zemmour.
T'as vu ou pas?
Il ne sait pas lui encore.
S'il voit le cours, il va.
Alors si tu nous regardes, Eric.
Retweet-moi.
Bekitsour. Alors, ok. Maintenant, comment la tour de Babel va régler le problème? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Hein. À aucun moment ils pensent que la tour elle va soutenir le bleu du ciel. C'est pas ça le débat. Ils savent tous très bien que ce n'est pas une question de pluie, que c'est une question de divin. Donc en quoi la construction de la tour va régler le problème? Quel a été le problème qui a amené le déluge? C'est que les hommes étaient pourris les uns avec les autres et que Dieu nous a jugés. Donc on a deux problèmes à régler. Le rapport entre les hommes et le fait que Dieu ne nous juge pas. Et là, voilà comment on va régler le problème. Iné. Vayi benos am mikedem. Je suis au verset bête. Ouais. Vayi benos am mikedem. Ils ont voyagé depuis. Depuis où? C'est où Kedem? L'Orient, l'Est. Donc si ils viennent de l'Est et qu'ils vont.
Kedem, ça fait référence au soleil?
Oui. L'Est s'appelle Kedem dans la Torah.
D'accord.
Maintenant, s'ils viennent de l'Est, donc ils vont où? À l'Ouest. Voici les inventeurs de la société occidentale, de la civilisation occidentale. Eh oui, quel est, on l'avait déjà évoqué, le marqueur principal de la civilisation occidentale par rapport à la civilisation orientale? On avait dit, le marqueur, c'est la volonté d'évoluer, de ne pas se satisfaire de la situation, mais de la faire avancer. Alors qu'en Orient, et particulièrement en Extrême-Orient, on veut rester dans la statique. Eux, ils veulent avancer. Donc on veut faire avancer les choses. Ok, voilà les inventeurs de la civilisation occidentale. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont trouvé une bika. C'est quoi une bika? Alors vallée, c'est une emek. Bika, c'est hein? Une grande plaine.
Bon.
Une plaine.
Ah bah oui, la plaine de la bika pour aller.
Oui. Ok.
Ah oui, d'accord.
Donc ils ont trouvé une plaine. Ils veulent construire quoi, rappelez-moi? Une tour qui va très très haut. Il n'aurait pas mieux fallu la construire d'abord sur une montagne, commencer déjà de haut. Là, il commence sur une vallée. Bon, deux secondes, ils veulent prendre une tour. Quelle est la matière première la plus facile pour faire une tour ?
Les briques.
Les pierres.
Les pierres. Ils sont déjà là. La terre. Faire une tour. Parce que vous pensez déjà à un truc, mais j'ai des pierres. Toi, tu me dis c'est plus facile de fabriquer des briques. Mais pourtant, c'est ce qu'ils vont faire. Regardez. וימצאו בוקה בארץ שינה וישבו שם ויאמרו איש אל אחיו איש אל רעהו סליחה הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר ils vont maintenant fabriquer des pierres manufacturées. מה זה une brique? C'est une pierre faite par l'homme. En d'autres termes, on règle le premier problème, le rapport à Dieu. Dieu me juge, mais à une seule condition, c'est que je sache qui il est et que je connaisse sa loi et je la transgresse. Si je ne connais plus sa loi, si je ne le connais plus, il ne peut pas me juger. Le concept de Tinok Shenishba Ben Agoim, un enfant de 1 an qui a été abandonné par ses parents sur le parvoi d'un couvent pour le protéger de la Shoah. Et les parents sont morts à Auschwitz, et le bébé a grandi chez les bonnes sœurs, et elle est devenue bonne sœur. Et à 25 ans, elle découvre qu'elle était juive. Est-ce qu'on peut lui tenir rigueur des Shabbats qu'elle n'a pas fait ? Bien sûr que non. C'est ce qu'on appelle Tinok Shenishba Ben Agoim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ça ne marche pas quand tu vois le flic qui t'arrête parce que tu as un excès de vitesse. Tu ne peux pas lui dire « je ne savais pas ». Ça ne marche pas. Mais dans la halakha, ça marche. Dans la halakha, si tu ne connais pas la loi, tu n'es pas tour. Nul n'est censé, mais si je l'ignore.
C'est-à-dire ? Et il ne connaissait pas la loi ?
Ben là, le but, c'est ça. Si je leur fais maintenant faire des briques, je m'éloigne autant que possible du Créateur. Je n'ai plus besoin de tes pierres à toi, je fais des pierres à moi. Je n'ai pas besoin de ta montagne, je vais faire une montagne à moi. Nimrod, lui, le patron, lui, il connaît. Mais les autres, ça va créer une société qui est éloignée de Dieu, qui ne le connaît plus. Donc ça règle le premier problème. Mais le deuxième problème, le rapport entre les hommes, comment on le règle ? Bah, c'est simple. Hava. Mazé Hava. Hava veut dire, littéralement, c'est un petit mot, hein. Hava, ça veut dire, n'est-ce pas qu'on est tous d'accord que...
Abi.
Tu connais pas Hava Nagila?
Hava
Nagila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allez, faisons la fête. Et gare à celui qui n'est pas d'accord. Hava, Shlomo m'a dit que lorsqu'il a expliqué, Shlomo Balzan m'a expliqué, que lorsqu'il était en Russie et qu'il a essayé de faire un peu de judaïsme avec les, et qu'il leur a parlé de ce texte-là, il n'y avait pas besoin de leur expliquer. Ils avaient tous compris que Nimrod, c'était Staline. Parce que c'est exactement ça. Hava nivne la nu'ir. Ça veut dire, on est tous d'accord, n'est-ce pas ? Il y en a deux, trois qui ont dit, qui ont émis une objection. On les a plus revus. C'est Hava. C'est exactement ça. Donc, comment est-ce qu'on va régler le problème ? Maintenant, on va être tous devant le même et seul objectif. הווה נלבנה ללבנים ונשרפה לשרפה ותהיה להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר ויאמרו הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. Donc l'objectif c'est de construire une tour qui va arriver jusqu'où?
Aux cieux.
Jusqu'aux cieux. Ça va prendre longtemps? Bah oui. C'est-à-dire que c'est une infinité de temps. L'objectif c'est que cette tour elle ne finisse jamais. Et donc, il y a des gens qui vont naître, le chantier sera déjà en place, ils vont vivre 100 ans, ils vont mourir, ça ne sera toujours pas fini. Toutes les forces de l'humanité sont tournées vers la tour. Donc, il n'y a plus de problème. On n'a plus de tacharout. Pourquoi est-ce qu'avant, à l'époque du déluge, les gens se disputaient tout le temps parce qu'ils pensaient que ça, c'est à toi, mais en fait, c'est à moi. Mais ça, là, il n'y a plus de notion de propriété. Tout appartient à l'État. Tout appartient à la tour. C'est pas shoot un communisme avant l'heure. Ouais. Et ça marche, hein? Ça marche! Ça réunit les êtres humains.
Bah oui.
Nous disent Razal, la génération de la tour de Babel était aussi pourrie que celle du déluge. Mais pourquoi elle n'a pas été détruite? Parce qu'au moins ils étaient ensemble. Pour de mauvaises raisons, mais ils étaient ensemble. Ça a tellement bien marché que le Midrash Rabba nous dit qu'un des hommes que Nimrod a réussi à convaincre, c'était Abraham. Du haut de ses 48 ans à l'époque. Abraham faisait partie des constructeurs de la tour de Babel. Parce que il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais l'humanité est unie. Donc c'est bien d'être unie.
On peut être unie dans un mauvais sens.
Ben oui, c'est quoi le mauvais sens? C'est qu'ici, on n'a pas créé d'unité. On a créé l'unicité.
Ah oui, c'est ça.
Et gare à celui qui ne serait pas comme tout le monde. Vous avez vu ce très bon film, j'imagine, La Vague.
Terrible.
Tu l'as vu? Vous n'avez pas vu?
Non.
Alors, vois-le, tu vas kiffer.
Il est sur YouTube.
Tu vas vraiment apprécier. C'est un bon film. C'est un film allemand. Mais il est bien quand même. La Vague.
La Vague.
Non, mais il existe en français. Hein. Il existe en français, j'ai déjà vu. C'est un prof en Allemagne, dans un lycée, qui veut expliquer comment c'est très facile de tomber dans le fascisme, le totalitarisme. Et il fait une expérience avec sa classe. En une semaine, la classe devient fasciste. Maintenant, et donc voilà, ils font tout un truc. Le premier jour, ils se mettent d'accord sur un uniforme. Et il y a une des élèves qui vient, ils disent chemise blanche, pantalon en jean. Et le lendemain, il y a une des élèves qui arrive, tout le monde est en uniforme, et elle vient avec un chemisier rouge. En 3 minutes, elle est exclue de la classe. Donc c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, iné. Vayered Hashem, lirot et ha'ir et ha'migdal. Asher banu bnei Adam. Vayomer Hashem, en am echad v'safa echad lekulam v'ze chilam la'asot. Voilà ce qu'ils ont fait suite à cette unicité. Ve'ata lo yibatzer mehem kol ish yazmu la'asot. Hava, ils ont fait hava, moi aussi je vais faire hava. Hava nerda v'navla sham sfatam asher lo yishmeu ish sefat re'u. Je vais leur faire comprendre qu'en fait ils n'ont pas tous le même objectif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on a vu à l'éclatement du mur communiste, à l'éclatement du bloc soviétique, tout d'un coup, les peuples qui pendant 40 ans avaient... Ben non. Tout d'un coup, il y a plein de minorités qui en fait ont leurs avis à eux. Et bon, ça va créer des guerres terribles. On connaît ça, le Kosovo et la Yougoslavie et ce que tu veux. Mais c'est normal. Les gens, ils en avaient marre d'être dictés par une loi qui n'était pas la leur. Ils ont arrêté de construire, ça y est. Alken kara shema Bavel. Ils l'ont appelé Bavel. Lama ki sham balal Hashem sefat kol haaretz. Alors ça va pas du tout. Bavel ki sham balal. Alors pas Bavel, fallait l'appeler Balbel. Eh oui, qui ne veut pas dire car? Des fois, ça veut dire car, mais des fois, ça veut dire kaacher. Lorsque. Ils ont appelé cette ville Babel lorsque Dieu a mélangé les Safot. Qu'est-ce que veut dire donc le mot Babel? Absolument pas balagan, mélange. Babel veut dire Bab-Ilou. En babylonien, que veut dire le mot Babel? Bab Ilou, la porte des dieux. C'est-à-dire que Babel, ils l'ont appelé Babel parce que c'est là où Dieu s'est révélé à eux, pour les disperser. Mais pas parce que ça ne veut pas dire mélange, ça veut dire la porte du ciel.
Pourquoi ils font dire que Dieu est au ciel?
Mais ils savent que Dieu est au ciel, pas dans le bleu. Pas dans le bleu, mais dans les... Non, bien sûr pas dans le Dieu, mais dans le Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim, ça ils le savent. Mais... Il est venu ici. OK? Et donc voilà. Appelez qu'on arrête. Et donc voilà. Ben, une fois qu'on a dit ça, la tour de Babel est terminée. Et il va falloir maintenant essayer de trouver une autre solution pour réunir l'humanité. Et ça, ben, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Quand on dit Babel, ça vient de là.
Exactement. Exactement. Chazak ou Baruch.